L'heure passée, il fallait retourner à la gare où je devais attendre ma grand-mère et Françoise pour gagner ensemble Balbec-Plage. Je me rappelais ce que j'avais lu sur Balbec, les paroles de Swann. C'est délicieux, c'est aussi beau que Sienne. Et n'accusant de ma déception que des contingences, la mauvaise disposition où j'étais, ma fatigue, mon incapacité de savoir regarder, j'essayais de me consoler en pensant qu'il restait d'autres villes encore intactes pour moi, que je pourrais prochainement peut-être pénétrer, comme au milieu d'une pluie de perles, dans le frais gazouillis des égouttements de Quimperlé, traverser le reflet verdissant et rose qui baignait Pont-Aven. Mais pour Balbec, dès que j'y étais entré, ça avait été comme si j'avais ouvert un nom qu'il eût fallu tenir hermétiquement clos, et où, profitant de l'issue que je leur avais imprudemment offerte, en chassant toutes les images qui y vivaient jusque-là, un tramway, un café, les gens qui passaient sur la place, la succursale du comptoir d'escompte, irrésistiblement poussés par une pression externe et une force pneumatique, s'étaient engouffrés à l'intérieur des syllabes, qui, renfermés sur eux, les laissaient maintenant encadrer le porche de l'église persane, et ne cesserait plus de les contenir. Dans le petit chemin de fer d'intérêt local qui devait nous conduire à Balbec-Plage, je retrouvais ma grand-mère, mais l'y retrouvais seule, car elle avait imaginé de faire partir avant elle pour que tout fût préparé d'avance, mais lui ayant donné un renseignement faux, n'avait réussi qu'à faire partir dans une mauvaise direction. Françoise, qui en ce moment sans s'en douter filait à toute vitesse sur Nantes, et se réveillerait peut-être à Bordeaux. À peine fus-je assis dans le wagon rempli par la lumière fugitive du couchant et par la chaleur persistante de l'après-midi, la première hélas me permettant de voir en plein sur le visage de ma grand-mère combien la seconde l'avait fatiguée. Elle me demanda « Eh bien, Balbec ?» avec un sourire si ardemment éclairé par l'espérance du grand plaisir qu'elle pensait que j'avais éprouvé, que je n'osais pas lui avouer tout d'un coup ma déception. D'ailleurs, l'impression que mon esprit avait recherchée m'occupait moins au fur et à mesure que se rapprochait le lieu auquel mon corps aurait à s'accoutumer. Au terme encore éloigné de plus d'une heure de ce trajet, je cherchais à imaginer le directeur de l'hôtel de Balbec, pour qui j'étais en ce moment inexistant, et j'aurais voulu me présenter à lui dans une compagnie plus prestigieuse que celle de ma grand-mère, qui allait certainement lui demander des rabais. Il m'apparaissait empreint d'une morgue certaine, mais très vague de contour. À tout moment, le petit chemin de fer nous arrêtait à l'une des stations qui précédait Balbec-Plage et dont les noms mêmes, Incarville, Marcouville, Deauville, Pont-à-Couleuvre, Arambouville, Saint-Mars-le-Vieux, Hermonville, Benville, me semblaient étranges, alors que lus dans un livre, ils auraient eu quelque rapport avec les noms de certaines localités qui étaient voisines de Combray. Mais à l'oreille d'un musicien, de motifs matériellement composés de plusieurs des mêmes notes peuvent ne présenter aucune ressemblance s'ils diffèrent par la couleur de l'harmonie et de l'orchestration. De même, rien moins que ces tristes noms faits de sable, d'espace trop aéré et vide, et de sel, au-dessus desquels le mot ville s'échappait comme vol dans pigeon vol, ne me faisait penser à ces autres noms de Roussainville ou de Martinville, qui, parce que je les avais entendus prononcer si souvent par ma grand-tante à table, dans la salle, avaient acquis un certain charme sombre, où s'étaient peut-être mélangés des extraits du goût des confitures, de l'odeur du feu de bois et du papier d'un livre de Bergotte, de la couleur de grès de la maison d'en face, et qui, aujourd'hui encore, quand il remonte comme une bulle gazeuse du fond de ma mémoire, conservent leurs vertus spécifiques à travers les couches superposées de milieux différents qu'ils ont à franchir avant d'atteindre jusqu'à la surface. C'était dominant la mer lointaine du haut de leurs dunes, ou s'accommodant déjà pour la nuit au pied de collines d'un vert cru et d'une forme désobligeante comme celle du canapé d'une chambre d'hôtel où l'on vient d'arriver, composé de quelques villas que prolongeait un terrain de tennis et quelquefois un casino, dont le drapeau claqué au vent fraîchissant, évidé et anxieux, de petites stations qui me montraient pour la première fois leurs hôtes habituels, mais me les montraient par leur dehors, des joueurs de tennis en casquette blanche, le chef de gare vivant là près de ses tamaris et de ses roses, une dame coiffée d'un canotier qui, décrivant le tracé quotidien d'une vie que je ne connaîtrai jamais, rappelait son lévrier qui s'attardait et rentrait dans son chalet où la lampe était déjà allumée, et qui, blessé cruellement de ces images étrangement usuelles et dédaigneusement familières, mes regards inconnus et mon cœur dépaysé. Mais combien ma souffrance s'aggrava quand nous eûmes débarqué dans le hall du grand hôtel de Balbec, en face de l'escalier monumental qui imitait le marbre, et pendant que ma grand-mère, sans souci d'accroître l'hostilité et le mépris des étrangers, au milieu desquels nous allions vivre, discutait les conditions avec le directeur, sorte de poussa à la figure et à la voix pleine de cicatrices, qu'avait laissé l'extirpation sur l'une de nombreux boutons, sur l'autre les divers accents dus à des origines lointaines et à une enfance cosmopolite. Au smoking de mondain, au regard de psychologue, prenant généralement à l'arrivée de l'omnibus les grands seigneurs pour des râleux et les rats d'hôtel pour des grands seigneurs. Oubliant sans doute que lui-même ne touchait pas 500 francs d'appointements mensuels, il méprisait profondément les personnes pour qui 500 francs, ou plutôt, comme il disait, 25 louis, est une somme, et les considérait comme faisant partie d'une race de parias à qui n'était pas destiné le grand hôtel. Il est vrai que dans ce palace même, il y avait des gens qui ne payaient pas très cher, tout en étant estimés du directeur, à condition que celui-ci fût certain qu'il regardait à dépenser non pas par pauvreté, mais par avarice. Elle ne saurait en effet rien ôter au prestige, puisqu'elle est un vice et peut par conséquent se rencontrer dans toutes les situations sociales. La situation sociale était la seule chose à laquelle le directeur fit attention. La situation sociale, ou plutôt les signes qui lui paraissaient, impliquaient qu'elle était élevée, comme ne pas se découvrir en entrant dans le hall, de porter des knickerbockers, un paletot à taille, et de sortir un cigare sain de pourpre et d'or d'un étui en maroquin écrasé. Tous avantages, hélas, qui me faisaient défaut. Il émaillait ses propos commerciaux d'expressions choisies, mais à contresens. Tandis que j'entendais ma grand-mère, sans se froisser qu'il écoutât son chapeau sur la tête et tout en sifflotant, lui demander avec une intonation artificielle « Et quels sont vos prix ?»« Oh, beaucoup trop élevés pour mon petit budget. » Attendant sur une banquette, je me réfugiais au plus profond de moi-même, je m'efforçais d'émigrer dans des pensées éternelles, de ne laisser rien de moi, rien de vivant à la surface de mon corps, insensibilisé comme les selles des animaux qui, par inhibition, font les morts quand on les blesse, afin de ne pas trop souffrir dans ce lieu où mon manque total d'habitude m'était rendu plus sensible encore par la vue de celle que semblait en avoir au même moment une dame élégante à qui le directeur témoignait son respect en prenant des familiarités avec le petit chien dont elle était suivie. Le jeune gandin, qui la plume au chapeau, rentrait en demandant s'il avait des lettres. Tous ces gens pour qui s'était regagné leur home, que de gravir les degrés en faux marbre. Et en même temps, le regard de Minos, et Hac et Radamante, regard dans lequel je plongeais mon âme dépouillée, comme dans un inconnu où plus rien ne la protégeait, me fut jeté sévèrement par des messieurs qui peuvent verser peut-être dans l'art de recevoir portait le titre de chef de réception. Plus loin, derrière un vitrage clos, des gens étaient assis dans un salon de lecture pour la description duquel il m'aurait fallu choisir dans le Dante, tour à tour, les couleurs qu'il prête au paradis et à l'enfer, selon que je pensais au bonheur des élus qui avaient le droit d'y lire en toute tranquillité, ou à la terreur que m'eût causée ma grand-mère si, dans son insouci de ce genre d'impression, elle m'eût ordonné d'y pénétrer. Mon impression de solitude s'accrut encore un moment après, comme j'avais avoué à ma grand-mère que je n'étais pas bien, que je croyais que nous allions être obligés de revenir à Paris. Sans protester, elle avait dit qu'elle sortait pour quelques emplettes, utile aussi bien si nous partions que si nous restions, et que je sus ensuite m'être toute destinée, Françoise ayant avec elle des affaires qui m'eussent manqué. En l'attendant, j'étais allé faire les 100 pas dans les rues encombrées d'une foule qui y maintenait une chaleur d'appartement et où était encore ouvert la boutique du coiffeur et le salon d'un pâtissier, chez lequel des habitués prenaient des glaces, devant la statue de Duguay-Trouin. Elle me causa à peu près autant de plaisir que son image au milieu d'un illustré peut en procurer aux malades qui le feuillettent dans le cabinet d'attente d'un chirurgien. Je m'étonnais qu'il y eût des gens assez différents de moi pour que cette promenade dans la ville, le directeur eût pu me la conseiller comme une distraction, et aussi pour que le lieu de supplice qui est une demeure nouvelle pût paraître à certains un séjour de délices, comme disait le prospectus de l'hôtel, qui pouvait exagérer, mais pourtant s'adresser à toute une clientèle dont il flattait les goûts. Il est vrai qu'il invoquait, pour la faire venir au grand hôtel de Balbec, non seulement la chère esquisse et le coup d'œil féerique des jardins du casino, mais encore les arrêts de Sa Majesté la Mode, qu'on ne peut violer impunément sans passer pour un béotien, ce à quoi aucun homme bien élevé ne voudrait s'exposer. Le besoin que j'avais de ma grand-mère était grandi par la crainte de lui avoir causé une désillusion. Elle devait être découragée, sentir que si je ne supportais pas cette fatigue, c'était à désespérer qu'aucun voyage pût me faire du bien. Je me décidai à rentrer l'attendre. Le directeur vint lui-même pousser un bouton, et un personnage encore inconnu de moi, qu'on appelait Lift, et qui, au point le plus haut de l'hôtel, là où serait le lanterneau d'une église normande, était installé comme un photographe derrière son vitrage, ou comme un organiste dans sa chambre, se mit à descendre vers moi avec l'agilité d'un écureuil domestique, industrieux et captif. Puis, en glissant de nouveau le long d'un pilier, il m'entraîna à sa suite vers le dôme de la nef commerciale. À chaque étage, des deux côtés de petits escaliers de communication, se dépliaient en éventail de sombres galeries dans lesquelles, portant un traversin, passait une femme de chambre. J'appliquai à son visage rendu indécis par le crépuscule le masque de mes rêves les plus passionnés, mais lisais dans son regard tourné vers moi l'horreur de mon néant. Cependant, pour dissiper au cours de l'interminable ascension l'angoisse mortelle que j'éprouvais à traverser en silence le mystère de ce clair-obscur sans poésie, éclairé d'une seule rangée verticale de verrières que faisait l'unique water-closet de chaque étage, j'adressai la parole au jeune organiste, artisan de mon voyage et compagnon de ma captivité, lequel continuait à tirer les registres de son instrument et à pousser les tuyaux. Je m'excusai de tenir autant de place, de lui donner tellement de peine, et lui demandai si je ne le gênais pas dans l'exercice d'un art, à l'endroit duquel, pour flatter le virtuose, je fis plus que manifester de la curiosité, je confessai ma prédilection. Mais il ne me répondit pas, soit étonnement de mes paroles, attention à son travail, souci de l'étiquette, dureté de son ouïe, respect du lieu, crainte du danger, paresse d'intelligence ou consigne du directeur. Il n'est peut-être rien qui donne plus l'impression de la réalité de ce qui nous est extérieur que le changement de la position par rapport à nous d'une personne même insignifiante avant que nous l'ayons connue et après. J'étais le même homme qui avait pris à la fin de l'après-midi le petit chemin de fer de Balbec, je portais en moi la même âme. Mais dans cette âme, à l'endroit où à 6 heures il y avait, avec l'impossibilité d'imaginer le directeur, le palace, son personnel, une attente vague et craintive du moment où j'arriverais, se trouvaient maintenant les boutons extirpés dans la figure du directeur cosmopolite, en réalité naturalisé monégasque, bien qu'il fût, comme il disait parce qu'il employait toujours des expressions qu'il croyait distinguer, sans s'apercevoir qu'elles étaient vicieuses, d'originalité roumaine. Son geste pour sonner le lift lui-même, toute une frise de personnages de guignol, sortit de cette boîte de Pandore qu'était le grand hôtel, indéniable, inamovible, et comme tout ce qui est réalisé, stérilisant. Mais du moins ce changement dans lequel je n'étais pas intervenu me prouvait qu'il s'était passé quelque chose d'extérieur à moi, si dénué d'intérêt que cette chose fût en soi, et j'étais comme le voyageur qui, ayant eu le soleil devant lui en commençant une course, constate que les heures sont passées quand il le voit derrière lui. J'étais brisé par la fatigue, j'avais la fièvre. Je me serais bien couché, mais je n'avais rien de ce qu'il eût fallu pour cela. J'aurais voulu au moins m'étendre un instant sur le lit, mais à quoi bon, puisque je n'aurais pu y faire trouver de repos à cet ensemble de sensations qui est pour chacun de nous son corps conscient, sinon son corps matériel, et puisque les objets inconnus qui l'encerclaient, en le forçant à mettre ses perceptions sur le pied permanent d'une défensive vigilante, aurait maintenu mes regards, mon ouïe, tous mes sens dans une position aussi réduite et incommode, même si j'avais allongé mes jambes, que celle du cardinal Labalu dans la cage où il ne pouvait ni se tenir debout, ni s'asseoir. C'est notre attention qui met des objets dans une chambre, et l'habitude qui les en retire, et nous y fait de la place. De la place il n'y en avait pas pour moi dans ma chambre de Balbec, mienne de nom seulement. Elle était pleine de choses qui, ne me connaissant pas, me rendirent le coup d'œil méfiant que je leur jetais, et sans tenir aucun compte de mon existence, témoignèrent que je dérangeais le train-train de la leur. La pendule, alors qu'à la maison je n'entendais la mienne que quelques secondes par semaine, seulement quand je sortais d'une profonde méditation, continua sans s'interrompre un instant à tenir dans une langue inconnue des propos qui devaient être désobligeants pour moi, car les grands rideaux violets l'écoutaient sans répondre, mais dans une attitude analogue à celle des gens qui haussent les épaules pour montrer que la vue d'un tiers les irrite. Il donnait à cette chambre si haute un caractère quasi historique qui eût pu la rendre appropriée à l'assassinat du duc de Guise et plus tard à une visite de touristes conduite par un guide de l'agence Cook, mais nullement à mon sommeil. J'étais tourmenté par la présence de petites bibliothèques à vitrines qui couraient le long des murs, mais surtout par une grande glace à pied arrêtée en travers de la pièce et avant le départ de laquelle je sentais qu'il n'y aurait pas pour moi de détente possible. Je levai à tout moment mes regards, que les objets de ma chambre de Paris ne gênaient pas plus que ne faisaient mes propres prunelles, car ils n'étaient plus que des annexes de mes organes, un agrandissement de moi-même, vers le plafond surélevé de ce belvédère situé au sommet de l'hôtel et que ma grand-mère avait choisi pour moi. Et jusque dans cette région plus intime que celle où nous voyons et où nous entendons, dans cette région où nous éprouvons la qualité des odeurs, c'était presque à l'intérieur de mon moi que celle du vétiver venait pousser dans mes derniers retranchements son offensive. à laquelle j'opposais non sans fatigue la riposte inutile et incessante d'un reniflement alarmé. N'ayant plus d'univers, plus de chambre, plus de corps que menacé par les ennemis qui m'entouraient, qu'envahi jusque dans les os par la fièvre, j'étais seul, j'avais envie de mourir. Alors ma grand-mère entra, et à l'expansion de mon cœur refoulé s'ouvrirent aussitôt des espaces infinis. Elle portait une robe de chambre de percale qu'elle revêtait à la maison chaque fois que l'un de nous était malade, parce qu'elle s'y sentait plus à l'aise, disait-elle, attribuant toujours à ce qu'elle faisait des mobiles égoïstes, et qui était pour nous soigner, pour nous veiller, sa blouse de servante et de garde, son habit de religieuse. Mais tandis que les soins de celles-là, la bonté qu'elles ont, le mérite qu'on leur trouve et la reconnaissance qu'on leur doit, augmente encore l'impression qu'on a d'être pour elle un autre, de se sentir seul, gardant pour soi la charge de ses pensées, de son propre désir de vivre. Je savais, quand j'étais avec ma grand-mère, si grand chagrin qu'il y eût en moi, qu'il serait reçu dans une pitié plus vaste encore, que tout ce qui était mien, mes soucis, mon vouloir, serait en ma grand-mère, étayé sur un désir de conservation et d'accroissement de ma propre vie, autrement fort que celui que j'avais de moi-même. Et mes pensées se prolongeaient en elle sans subir de déviation, parce qu'elle passait de mon esprit dans le sien sans changer de milieu, de personne. Et comme quelqu'un qui veut nouer sa cravate devant une glace sans comprendre que le bout qu'il voit n'est pas placé par rapport à lui du côté où il dirige sa main, ou comme un chien qui poursuit à terre l'ombre dansante d'un insecte, trompé par l'apparence du corps comme on l'est dans ce monde, où nous ne percevons pas directement les âmes, je me jetai dans les bras de ma grand-mère et je suspendis mes lèvres à sa figure, comme si j'accédais ainsi à ce cœur immense qu'elle m'ouvrait. Quand j'avais ainsi ma bouche collée à ses joues, à son front, j'y puisais quelque chose de si bienfaisant, de si nourricier, que je gardais l'immobilité, le sérieux, la tranquille avidité d'un enfant qui tète. Je regardais ensuite sans me lasser son grand visage, découpé comme un beau nuage ardent et calme, derrière lequel on sentait rayonner la tendresse, et tout ce qui recevait encore, si faiblement que ce fût, un peu de ses sensations, tout ce qui pouvait ainsi être dit encore à elle, en était aussitôt si spiritualisé, si sanctifié, que de mes paumes, je lissais ses beaux cheveux à peine gris avec autant de respect, de précaution et de douceur que si j'y avais caressé sa bonté. Elle trouvait un tel plaisir dans toute peine qui m'en épargnait une, et dans un moment d'immobilité et de calme pour mes membres fatigués quelque chose de si délicieux, que quand ayant vu qu'elle voulait m'aider à me coucher et me déchausser, je fis le geste de l'en empêcher et de commencer à me déshabiller moi-même, elle arrêta d'un regard suppliant mes mains, qui touchaient au premier bouton de ma veste et de mes bottines. « Oh, je t'en prie, » me dit-elle, « c'est une telle joie pour ta grand-mère, et surtout ne manque pas de frapper au mur si tu as besoin de quelque chose cette nuit. Mon lit est adossé au tien, la cloison est très mince. » D'ici un moment, quand tu seras couché, fais-le, pour voir si nous nous comprenons bien. Et en effet, ce soir-là, je frappai trois coups, que une semaine plus tard, quand je fus souffrant, je renouvelai pendant quelques jours, tous les matins, parce que ma grand-mère voulait me donner du lait de bonne heure. Alors, quand je croyais entendre qu'elle était réveillée, pour qu'elle n'attendît pas, et put de suite après se rendormir, je risquai trois petits coups. Timidement, faiblement, distinctement malgré tout, car si je craignais d'interrompre son sommeil, dans le cas où je me serais trompé et où elle eût dormi, je n'aurais pas voulu non plus qu'elle continuât d'épier un appel qu'elle n'aurait pas distingué d'abord, et que je n'oserais pas renouveler. Et à peine j'avais frappé mes coups, que j'en entendais trois autres, d'une intonation différente de cela, empreint d'une calme autorité, répétée à deux reprises pour plus de clarté, et qui disait « Ne t'agite pas, j'ai entendu, dans quelques instants je serai là. » Et bientôt après, ma grand-mère arrivait. Je lui disais que j'avais eu peur qu'elle ne m'entendît pas, ou crut que c'était un voisin qui avait frappé. Elle riait. Confondre les coups de mon pauvre chou avec d'autres, mais entre mille, sa grand-mère les reconnaîtrait. Crois-tu donc qu'il y en ait d'autres au monde qui soient aussi bêta, aussi fébrile, aussi partagé entre la crainte de me réveiller et de ne pas être compris? Mais quand même elle se contenterait d'un grattement, on reconnaîtrait tout de suite sa petite souris, surtout quand elle est aussi unique et à plaindre que la mienne. Je l'entendais déjà depuis un moment, qui hésitait, qui se remuait dans le lit, qui faisait tous ses manèges. Elle entr'ouvrait les persiennes. À l'annexe en saillie de l'hôtel, le soleil était déjà installé sur les toits comme un couvreur matinal qui commence tôt son ouvrage et l'accomplit en silence pour ne pas réveiller la ville de rancor et de laquelle l'immobilité le fait paraître plus agile. Elle me disait l'heure, le temps qu'il ferait, que ce n'était pas la peine que j'allasse jusqu'à la fenêtre, qu'il y avait de la brume sur la mer, si la boulangerie était déjà ouverte, quelle était cette voiture qu'on entendait. Tout cet insignifiant lever de rideau, ce négligeable introïde du jour, auquel personne n'assiste, petit morceau de vie qui n'était qu'à nous deux, que j'évoquerai volontiers dans la journée devant Françoise ou des étrangers, en parlant du brouillard à couper au couteau qu'il y avait eu le matin à 6 heures, avec l'obstination, non d'un savoir acquis, mais d'une marque d'affection reçue par moi seul, doux instant matinal qui s'ouvrait comme une symphonie par le dialogue rythmé de mes trois coups, auquel la cloison pénétrait de tendresse et de joie, devenue harmonieuse, immatérielle, chantant comme les anges, répondait par trois autres coups, ardemment attendus, deux fois répétés, et où elle savait transporter l'âme de ma grand-mère tout entière et la promesse de sa venue, avec une allégresse d'annonciation et une fidélité musicale. Mais cette première nuit d'arrivée, quand ma grand-mère m'eut quitté, je recommençais à souffrir, comme j'avais déjà souffert à Paris au moment de quitter la maison. Peut-être cet effroi que j'avais, comme tant d'autres, de coucher dans une chambre inconnue, peut-être cet effroi n'est-il que la forme la plus humble, obscure, organique, presque inconsciente, de ce grand refus désespéré qu'opposent les choses qui constituent le meilleur de notre vie présente à ce que nous revêtions mentalement de notre acceptation, la formule d'un avenir où elle ne figure pas. Refus qui était au fond de l'horreur que m'avait fait si souvent éprouver la pensée que mes parents mourraient un jour, que les nécessités de la vie pourraient m'obliger à vivre loin de Gilberte, ou simplement à me fixer définitivement dans un pays où je ne reverrai plus jamais mes amis. Refus qui était encore au fond de la difficulté que j'avais à penser à ma propre mort, ou à une survie comme celle que Bergotte promettait aux hommes dans ses livres, dans laquelle je ne pourrais emporter mes souvenirs, mes défauts, mon caractère, qui ne se résignait pas à l'idée de ne plus être, et ne voulait pour moi ni du néant, ni d'une éternité, où il ne serait plus. Quand Swann m'avait dit à Paris, un jour que j'étais particulièrement souffrant, « Vous devriez partir pour ces délicieuses îles de l'Océanie, vous verrez que vous n'en reviendrez plus. » J'aurais voulu lui répondre, « Mais alors je ne verrai plus votre fille, je vivrai au milieu de choses et de gens qu'elle n'a jamais vus. » Et pourtant, ma raison me disait, « Qu'est-ce que cela peut faire, puisque tu n'en seras pas affligé ?» Quand Monsieur Swann te dit que tu ne reviendras pas, il entend par là que tu ne voudras pas revenir, Et puisque tu ne le voudras pas, c'est que là-bas tu seras heureux. Car ma raison savait que l'habitude qui allait assumer maintenant l'entreprise de me faire aimer ce logis inconnu, de changer de place la glace, la nuance des rideaux, d'arrêter la pendule, se charge aussi bien de nous rendre chers les compagnons qu'ils avaient déplu d'abord, de donner une autre forme au visage, de rendre sympathique le son d'une voix, de modifier l'inclination des cœurs. Certes, ces amitiés nouvelles pour des lieux et des gens ont pour trame l'oubli des anciennes, mais justement, ma raison pensait que je pouvais envisager sans terreur la perspective d'une vie où je serais à jamais séparé d'êtres dont je perdrais le souvenir, et c'est comme une consolation qu'elle offrait à mon cœur une promesse d'oubli qui ne faisait au contraire qu'affoler son désespoir. Ce n'est pas que notre cœur ne doive éprouver lui aussi, quand la séparation sera consommée, les effets analgésiques de l'habitude. Mais jusque-là, il continuera de souffrir, et la crainte d'un avenir où nous serons enlevés la vue et l'entretien de ceux que nous aimons, et d'où nous tirons aujourd'hui notre plus chère joie, cette crainte, loin de se dissiper, s'accroît si à la douleur d'une telle privation nous pensons que s'ajoutera ce qui pour nous semble actuellement plus cruel encore, ne pas la ressentir comme une douleur, y rester indifférent. Car alors notre moi serait changé, ce ne serait plus seulement le charme de nos parents, de notre maîtresse, de nos amis, qui ne serait plus autour de nous, mais notre affection pour eux. Elle aurait été si parfaitement arrachée de notre cœur, dont elle est aujourd'hui une notable part, que nous pourrions nous plaire à cette vie séparée d'eux, dont la pensée nous fait horreur aujourd'hui. Ce serait donc une vraie mort de nous-mêmes, mort suivie, il est vrai, de résurrection, mais en un moi différent, et jusqu'à l'amour duquel ne peuvent s'élever les parties de l'ancien moi condamné à mourir. Ce sont elles, même les plus chétives, comme les obscurs attachements aux dimensions, à l'atmosphère d'une chambre, qui s'effarent et refusent, en des rébellions où il faut voir un mode secret, partiel, tangible et vrai de la résistance à la mort, de la longue résistance désespérée et quotidienne à la mort fragmentaire et successive telle qu'elle s'insère dans toute la durée de notre vie, détachant de nous à chaque moment des lambeaux de nous-mêmes sur la mortification desquels des cellules nouvelles multiplieront. Et pour une nature nerveuse comme était la mienne, c'est-à-dire chez qui les intermédiaires, les nerfs, remplissent mal leurs fonctions, n'arrêtent pas dans sa course vers la conscience, mais y laissent au contraire parvenir, distincte, épuisante, innombrable et douloureuse, la plainte des plus simples éléments du moi qui vont disparaître, l'anxieuse alarme que j'éprouvais sous ce plafond inconnu et trop haut n'était que la protestation d'une amitié qui survivait en moi pour un plafond familier et bas. Sans doute cette amitié disparaîtrait, une autre ayant pris sa place. Alors la mort, puis une nouvelle vie, auraient, sous le nom d'habitude, accompli leur œuvre double. Mais jusqu'à son anéantissement, chaque soir elle souffrirait, et ce premier soir-là surtout, mise en présence d'un avenir déjà réalisé où il n'y avait plus de place pour elle, elle se révoltait, elle me torturait du cri de ses lamentations chaque fois que mes regards, ne pouvant se détourner de ce qui les blessait, essayaient de se poser au plafond inaccessible. Mais le lendemain matin, après qu'un domestique fût venu m'éveiller et m'apporter de l'eau chaude, et pendant que je faisais ma toilette et essayais vainement de trouver les affaires dont j'avais besoin dans ma malle, d'où je ne tirais pêle-mêle que celles qui ne pouvaient me servir à rien, quelle joie, pensant déjà au plaisir du déjeuner et de la promenade, de voir dans la fenêtre et dans toutes les vitrines des bibliothèques, comme dans les hublots d'une cabine de navire, La mer nue, sans ombrage, et pourtant à l'ombre sur une moitié de son étendue, que délimitait une ligne mince et mobile, et de suivre des yeux les flots qui s'élançaient l'un après l'autre comme des sauteurs sur un tremplin. À tout moment, tenant à la main la serviette raide et empesée où était écrit le nom de l'hôtel, et avec laquelle je faisais d'inutiles efforts pour me sécher, je retournais près de la fenêtre, jetais encore un regard sur ce vaste cirque éblouissant et montagneux, et sur le sommet neigeux de ces vagues empires d'émeraude, çà et là polis et translucides, lesquels, avec une placide violence et un froncement léonin, laissaient s'accomplir et dévaler l'écoulement de leur pente, auquel le soleil ajoutait un sourire sans visage. Fenêtre à laquelle je devais ensuite me mettre chaque matin, comme au carreau d'une diligence dans laquelle on a dormi, pour voir si pendant la nuit s'est rapproché ou éloigné une chaîne désirée, ici ces collines de la mer qui, avant de revenir vers nous en dansant, peuvent reculer si loin que souvent ce n'était qu'après une longue plaine sablonneuse que j'apercevais à une grande distance leurs premières ondulations, dans un lointain transparent, vaporeux et bleuâtre, comme ces glaciers qu'on voit au fond des tableaux des primitifs toscans. D'autres fois, c'était tout près de moi que le soleil riait sur ces flots d'un vert aussi tendre que celui que conserve aux prairies alpestres, dans les montagnes où le soleil s'étale çà et là comme un géant qui en descendrait gaiement par bonds inégaux les pentes, moins l'humidité du sol que la liquide mobilité de la lumière. Au reste, dans cette brèche que la plage et les flots pratiquent au milieu du monde, pour y faire passer, pour y accumuler la lumière, c'est elle surtout, selon la direction d'où elle vient et que suit notre œil, c'est elle qui déplace et situe les vallonnements de la mer. La diversité de l'éclairage ne modifie pas moins l'orientation d'un lieu, ne dresse pas moins devant nous de nouveaux buts qu'il nous donne le désir d'atteindre, que ne ferait un trajet longuement et effectivement parcouru en voyage. Quand le matin, le soleil venait de derrière l'hôtel, découvrant devant moi les grèves illuminées jusqu'au premier contrefort de la mer, il semblait m'en montrer un autre versant et m'engager à poursuivre, sur la route tournante de ses rayons, un voyage immobile et varié à travers les plus beaux sites du paysage accidenté des heures. Et dès ce premier matin, le soleil me désignait au loin d'un doigt souriant ces cimes bleues de la mer qui n'ont de nom sur aucune carte géographique, jusqu'à ce qu'étourdi de sa sublime promenade à la surface retentissante et chaotique de leurs crêtes et de leurs avalanches, il vint se mettre à l'abri du vent dans ma chambre, se prélassant sur le lit défait et égrenant ses richesses sur le lavabo mouillé. Dans la malle ouverte, où par sa splendeur même et son luxe déplacé, il ajoutait encore à l'impression du désordre. Hélas, le vent de mer, une heure plus tard, dans la grande salle à manger, tandis que nous déjeunions et que de la gourde de cuir d'un citron, nous répandions quelques gouttes d'or sur deux sols, qui bientôt laissèrent dans nos assiettes le panache de leurs arêtes, frisé comme une plume et sonore comme une cithare, il parut cruel à ma grand-mère de n'en pas sentir le souffle vivifiant à cause du châssis, transparent mais clos, qui, comme une vitrine, nous séparait de la plage tout en nous la laissant entièrement voir, et dans lequel le ciel entrait si complètement que son azur avait l'air d'être la couleur des fenêtres et ses nuages blancs un défaut du verre. Me persuadant que j'étais assis sur le môle, ou au fond du boudoir dont parle Baudelaire, Je me demandais si son soleil rayonnant sur la mer, ce n'était pas bien différent du rayon du soir, simple et superficiel comme un trait doré et tremblant, celui qui en ce moment brûlait la mer comme une topaze, la faisait fermenter, devenir blonde et laiteuse comme de la bière, écumante comme du lait, tandis que par moments s'y promenaient çà et là de grandes ombres bleues que quelques dieux semblaient s'amuser à déplacer en bougeant un miroir dans le ciel. Malheureusement, ce n'était pas seulement par son aspect que différait de la salle de Combray, donnant sur les maisons d'en face cette salle à manger de Balbec. Nue, emplie de soleil vert comme l'eau d'une piscine, et à quelques mètres de laquelle la marée pleine et le grand jour élevaient comme devant la cité céleste un rempart indestructible et mobile d'émeraude et d'or. À Combray, comme nous étions connus de tout le monde, je ne me souciais de personne. Dans la vie de bain de mer, on ne connaît pas ses voisins. Je n'étais pas encore assez âgé, j'étais resté trop sensible pour avoir renoncé au désir de plaire aux êtres et de les posséder. Je n'avais pas l'indifférence plus noble qu'aurait éprouvé un homme du monde à l'égard des personnes qui déjeunaient dans la salle à manger, ni des jeunes gens et des jeunes filles passant sur la digue, avec lesquels je souffrais de penser que je ne pourrais pas faire d'excursion, moins pourtant que si ma grand-mère, dédaigneuse des formes mondaines et ne s'occupant que de ma santé, leur avait adressé la demande, humiliante pour moi, de m'agréer comme compagnon de promenade. Soit qu'ils rentrassent vers quelque chalet inconnu, soit qu'ils en sortissent pour se rendre raquette en main à un terrain de tennis, ou monta sur des chevaux dont les sabots me piétinaient le cœur, je les regardais avec une curiosité passionnée, dans cet éclairage aveuglant de la plage, où les proportions sociales sont changées. Je suivais tous leurs mouvements à travers la transparence de cette grande baie vitrée qui laissait passer tant de lumière. Mais elle interceptait le vent, et c'était un défaut à la vie de ma grand-mère qui, ne pouvant supporter l'idée que je perdisse le bénéfice d'une heure d'air, ouvrit subrepticement un carreau et fit envoler du même coup, avec les menus, les journaux, voiles et casquettes de toutes les personnes qui étaient en train de déjeuner, elle-même soutenue par le souffle céleste, restée calme et souriante comme Sainte Blandine, au milieu des invectives qui, augmentant mon impression d'isolement et de tristesse, réunissaient contre nous les touristes méprisants, dépeignés et furieux. Pour une certaine partie, ce qui à Balbec donnait à la population d'ordinaire banalement riche et cosmopolite de ces sortes d'hôtels de grand luxe, un caractère régional assez accentué, il se composait de personnalités éminentes des principaux départements de cette partie de la France, d'un premier président de Caen, d'un bâtonnier de Cherbourg, d'un grand notaire du Mans, qui à l'époque des vacances, partant des points sur lesquels toute l'année ils étaient disséminés en tirailleurs ou comme des pions au jeu de dames, venaient se concentrer dans cet hôtel. Ils y conservaient toujours les mêmes chambres, et avec leurs femmes qui avaient des prétentions à l'aristocratie, formaient un petit groupe auquel s'était adjoint un grand avocat et un grand médecin de Paris, qui, le jour du départ, leur disaient « Ah, c'est vrai, vous ne prenez pas le même train que nous. Vous êtes privilégiés. Vous serez rendus pour le déjeuner. » « Comment, privilégiés ? Vous qui habitez la capitale, Paris, la grande ville, tandis que j'habite un pauvre chef-lieu de 100 000 âmes. Il est vrai, 102 000 au dernier recensement. Mais qu'est-ce à côté de vous qui en comptez 2 500 000 ? Et qui allait retrouver l'Alsfat et tout l'éclat du monde parisien. » Il le disait avec un roulement d'air paysan, sans y mettre d'aigreur, car c'était des lumières de leur province qui auraient pu, comme d'autres, venir à Paris. On avait plusieurs fois offert au premier président de Caen un siège à la cour de cassation, mais avaient préféré rester sur place par amour de leur ville, ou de l'obscurité, ou de la gloire, ou parce qu'ils étaient réactionnaires, et pour l'agrément des relations de voisinage avec les châteaux. Plusieurs, d'ailleurs, ne regagnaient pas tout de suite leur chef-lieu. Car, comme l'abbé de Balbec était un petit univers à part au milieu du grand, une corbeille des saisons où étaient rassemblés en cercle les jours variés et les mois successifs, si bien que non seulement les jours où on apercevait Rivebelle, ce qui était signe d'orage, on y distinguait du soleil sur les maisons pendant qu'il faisait noir à Balbec, mais encore que quand les froids avaient gagné Balbec, on était certain de trouver sur cette autre rive deux ou trois mois supplémentaires de chaleur. Ceux de ces habitués du grand hôtel, dont les vacances commençaient tard ou duraient longtemps, faisaient, quand arrivaient les pluies et les brumes, à l'approche de l'automne, charger leur mal sur une barque et traverser, rejoindre l'été, à Rivebelle ou à Côte d'Or. Ce petit groupe de l'hôtel de Balbec regardait d'un air méchant chaque nouveau venu, et ayant l'air de ne pas s'intéresser à lui, tous interrogés sur son compte, leur ami le maître d'hôtel, car c'était le même, Aimé, qui revenait tous les ans faire la saison et leur gardait leur table. Et mesdames leurs épouses, sachant que sa femme attendait un bébé, travaillait après les repas, chacune à une pièce de la layette, tout en nous toisant avec leur face à main, ma grand-mère et moi, parce que nous mangeions des œufs durs dans la salade, ce qui était réputé commun et ne se faisait pas dans la bonne société d'Alençon. Ils affectaient une attitude de plaisante ironie à l'égard d'un Français qu'on appelait Majesté et qui s'était en effet proclamé lui-même roi d'un petit îlot de l'Océanie, peuplé par quelques sauvages. Il habitait l'hôtel avec sa jolie maîtresse, sur le passage de qui, quand elle allait se baigner, les gamins criaient « Vive la reine !» parce qu'elle faisait pleuvoir sur eux des pièces de 50 centimes. Le premier président et le bâtonnier ne voulaient même pas avoir l'air de la voir, et si quelqu'un de leurs amis la regardait, ils croyaient devoir le prévenir que c'était une petite ouvrière. Mais on m'avait assuré qu'à Ostende, ils usaient de la cabine royale. Naturellement, on la loue pour 20 francs, vous pouvez la prendre si cela vous fait plaisir. Et je sais pertinemment que lui avait fait demander une audience au roi qui lui a fait savoir qu'il n'avait pas à connaître ce souverain de Guignol. Ah vraiment, c'est intéressant, il y a tout de même des gens. Et sans doute tout cela était vrai, mais c'était aussi par ennui de sentir que pour une bonne partie de la foule, ils n'étaient eux que de bons bourgeois qui ne connaissaient pas ce roi et cette reine prodigue de leur monnaie, que le notaire, le président, le bâtonnier, au passage de ce qu'ils appelaient un carnaval, éprouvaient tant de mauvaise humeur et manifestaient tout haut une indignation, au courant de laquelle était leur ami le maître d'hôtel, qui, obligé de faire bon visage au souverain, plus généreux qu'authentique, cependant, tout en prenant leur commande, adressait de loin à ses vieux clients un clignement d'œil significatif. Peut-être y avait-il aussi un peu de ce même ennui d'être par erreur cru moins chic et de ne pouvoir expliquer qu'il l'était davantage au fond du joli monsieur dont il qualifiait un jeune baumeux, fils poitrinaire et fêtard d'un grand industriel, et qui tous les jours, dans un veston nouveau, une orchidée à la boutonnière, déjeunait au champagne et allait, pâle, impassible, un sourire d'indifférence aux lèvres, jeter au casino sur la table de baccarat des sommes énormes qu'il n'avait pas les moyens de perdre, disait d'un air renseigné le notaire au premier président, duquel la femme tenait de bonnes sources, que ce jeune homme fin de siècle faisait mourir de chagrin ses parents. D'autre part, le bâtonnier et ses amis ne tarissaient pas de sarcasmes au sujet d'une vieille dame riche et titrée, parce qu'elle ne se déplaçait qu'avec tout son train de maison. Chaque fois que la femme du notaire et la femme du premier président la voyaient dans la salle à manger au moment des repas, Elles l'inspectaient insolemment avec leur face à main, du même air minutieux et défiant que si elle avait été quelque plat, au nom pompeux, mais à l'apparence suspecte, qu'après le résultat défavorable d'une observation méthodique, on fait éloigner avec un geste distant et une grimace de dégoût. Sans doute par là voulait-elle seulement montrer que s'il y avait certaines choses dont elle manquait, dans l'espèce certaines prérogatives de la vieille dame, et être en relation avec elle, c'était non pas parce qu'elle ne pouvait, mais ne voulait pas les posséder. Mais elles avaient fini par s'en convaincre elles-mêmes, et c'est la suppression de tout désir, de la curiosité pour les formes de la vie qu'on ne connaît pas, de l'espoir de plaire à de nouveaux êtres, remplacé chez ces femmes par un dédain simulé, par une allégresse factice, qui avait l'inconvénient de leur faire mettre du déplaisir sous l'étiquette du contentement et se mentir perpétuellement à elles-mêmes. Deux conditions pour qu'elles fussent malheureuses. Mais tout le monde dans cet hôtel agissait sans doute de la même manière qu'elle, bien que sous d'autres formes, et sacrifiait sinon à l'amour-propre, du moins à certains principes d'éducation ou des habitudes intellectuelles, le trouble délicieux de se mêler à une vie inconnue. Sans doute le microcosme dans lequel s'isolait la vieille dame n'était pas empoisonné de virulentes aigreurs comme le groupe où ricanait de rage la femme du notaire et du premier président. Il était au contraire embaumé d'un parfum fin et vieillot, mais qui n'était pas moins factice. Car au fond, la vieille dame eût probablement trouvé à séduire, à s'attacher, en se renouvelant pour cela elle-même, la sympathie mystérieuse d'être nouveau, un charme dont est dénué le plaisir qu'il y a à ne fréquenter que des gens de son monde, et à se rappeler que, ce monde étant le meilleur qui soit, le dédain mal informé d'autrui est négligeable. Peut-être sentait-elle que si elle était arrivée inconnue au grand hôtel de Balbec, elle eût, avec sa robe de laine noire et son bonnet démodé, fait sourire quelque noceur qui, de son rocking, eût murmuré « Quelle purée !» ou surtout quelqu'homme de valeur ayant gardé, comme le premier président, entre ses favoris poivre et sel, un visage frais et des yeux spirituels comme elle les aimait, et qui eut aussitôt désigné, à la lentille rapprochante du face-à-main conjugal, l'apparition de ce phénomène insolite. Et peut-être était-ce par inconsciente appréhension de cette première minute, qu'on sait courte, mais qui n'est pas moins redoutée, comme la première tête qu'on pique dans l'eau, que cette dame envoyait d'avance un domestique mettre l'hôtel au courant de sa personnalité et de ses habitudes, et coupant court aux salutations du directeur, gagnait avec une brièveté où il y avait plus de timidité que d'orgueil, sa chambre où des rideaux personnels, remplaçant ceux qui pendaient aux fenêtres, des paravents, des photographies, mettaient si bien entre elle et le monde extérieur auquel il eût fallu s'adapter, la cloison de ses habitudes, que c'était son chez-elle, au sein duquel elle était restée, qui voyageait plutôt qu'elle-même.